vous avez participé au Parlement de Loire, qui a été créé sous l'influence de Bruno Latour et de Camille de Toledo. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Comment ça s'est passé?
Alors ça, c'est une superbe expérience qui continue et qui, en fait, a soulevé une montagne de points d'interrogation. Donc, quand les membres du Parlement m'ont demandé si je voulais bien être auditionnée, ben, j'ai dit oui. Et l'objectif, c'était d'apporter un peu... qu'est-ce que c'est qu'un cours d'eau, comment ça fonctionne, etc. Et puis d'essayer d'apporter le point de vue, si je pouvais le faire, des non-humains. Essayer de se mettre à la place de tous ceux, animaux, végétaux, qui sont dans les cours d'eau. Parce que même si dans les textes en France, pour tout ce qui est gestion de l'eau, la biodiversité est en premier chef, il faut la respecter, mais ce n'est pas forcément le cas au quotidien. Même s'il y a des ONG qui défendent, il n'y a pas de souci, mais au niveau institutionnel, ce n'est pas forcément appliqué. Donc essayer de porter un petit peu le message de bien-être ou mal-être de toutes ces, j'ai envie de dire, personnes, ou enfin bon, voilà, je ne sais pas trop comment dire. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est ce que j'essaye de continuer de faire à différents endroits. C'est d'expliquer comment ça fonctionne, un cours d'eau, et du coup, comment nos activités à nous, les humains, ça peut interférer avec, et quels impacts ça peut avoir sur les êtres vivants autres que nous. Ça prend beaucoup de temps, c'est pas simple, mais c'est passionnant. Et puis, cette histoire de personnalité juridique, c'est passionnant, mais en même temps, j'arrive pas du tout à voir comment on peut faire dans notre système à nous, n'étant pas juriste, bien sûr, j'ai pas les compétences pour ça. Et puis, ma grosse question, ou mes grosses questions, c'est qui dans les humains pour représenter toutes ces autres personnes, quoi? Qui? Est-ce qu'il y en a qui doivent l'être automatiquement de par leur statut administratif, associatif, et pourquoi? Enfin bon, donc j'ai envie de dire, c'est le gros bazar dans ma tête avec ça, parce que je sais pas. Voilà, j'ai lu le livre sur la rivière en Nouvelle-Zélande. C'est passionnant, mais le contexte, il est complètement différent. Il y a déjà un contexte culturel qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc, on ne peut pas transposer, c'est pas possible. C'est très intéressant, parce que ça montre combien nos cultures sont vraiment très, très éloignées. Donc, ça fait réfléchir aussi, se dire, oula, bon, franchement, nous, on est parti dans une certaine direction. J'ai toujours lu des choses un peu là-dessus, mais peut-être qu'on peut essayer de s'en inspirer, quoi, pour avancer, pour réfléchir, etc. Mais ouais, c'est plus de questions qu'autre chose, quoi. Je sais pas si on arrivera à s'en dépatouiller un jour. Je pense que si un jour on sort quelque chose qui sera un Parlement de Loire et pas un Parlement de l'eau comme l'est le comité de bassin, il y aura toujours des gens pas contents, d'une manière ou d'une autre. On ne peut jamais faire l'unanimité, mais je pense que c'est le gros plus, c'est que ça a quand même amené un certain nombre de personnes, administrations, instances, ONG, à reconsidérer leur façon de faire par rapport à l'environnement, par rapport aux autres êtres vivants. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai parlé du Parlement de Loire à une ONG environnementale, il n'en est pas question, c'est nous. J'étais très surprise par la réaction très défensive. Et puis, les choses ont évolué. C'est quelque chose qui fait son chemin, même si je pense que pour le moment, personne n'est capable de dire qu'est-ce que ça va donner, comment ça va évoluer, avancer, on ne sait pas. Ce pourquoi j'ai beaucoup... aussi œuvrer, quand il y a eu les auditions, les retours d'auditions, etc., c'est qu'on ne reste pas sur la Loire moyenne et sur la Touraine. Il faut aller voir dans l'estuaire, parce que c'est encore d'autres problématiques. Et puis, il ne faut pas oublier les parties amont, hein, la Haute-Loire, le Clermont et tout ça, parce que c'est aussi encore d'autres problématiques, quoi. Et que, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est que nos petits ruisseaux, ils seront malades ou pas en forme, et bien notre grande rivière, elle ne sera pas en forme non plus.
Oui.
Hein, ça s'accumule, ça s'ajoute, ça se rejoint. Donc, voilà, c'est important. Je n'ai pas suivi ce qui se faisait sur le Rhône, mais je crois qu'ils ont beaucoup avancé là-dessus. Faudrait que je prenne le temps de le faire, quoi. Mais bon, après, je pense aussi, dans cette histoire de Parlement de Loire, à mon avis, il y a une question d'échelle. Oui. Que le bassin de la Loire, c'est immense. Et que peut-être il faudrait faire par grands sous-bassins, la Vienne, le Cher, l'Allier, voilà, parce que je sais pas si bon déjà parce qu'on a des écosystèmes qui sont pas les mêmes entre la Haute-Loire et puis nous et puis même encore en route, les perceptions, les cultures, les communautés animales et végétales, elles ne sont pas les mêmes par rapport à ces différentes modalités de fonctionnement de l'écosystème. Donc peut-être que sur des échelles plus petites, ça serait à réfléchir, quoi. Voilà. Mais ce que je trouve aussi pas évident, c'est comment se positionner par rapport à toutes les structures liées au comité de bassin, quoi. C'est comment on arrive à faire cohabiter, les objectifs n'étant pas les mêmes, tout ça, pas, à mon avis, pas simple, quoi.
Et donc aujourd'hui, vous êtes membre du comité scientifique de la mission Val-de-Loire avec Stéphane Rodriguez et Mathieu Bonnefond. Et ça consiste en quoi ?
Alors, je ne pense pas que je sois membre du...
Je l'ai lu.
À ma connaissance, non, parce que je m'étais posé la question. Je suis membre du Conseil scientifique et prospectif du Parc Loire-Anjou-Touraine, et puis du Conseil scientifique de la réserve de Chérine, dans la Brenne. Mais, alors, ça, je crois savoir d'où ça vient, parce qu'on a été auditionné par la mairie de Tours au mois de mai, si mes souvenirs sont bons. Mais normalement, je ne fais pas partie de...
Mais c'était dans le journal de la ville de Tours, effectivement.
Oui, ben non, je ne fais pas partie du conseil scientifique.
C'est une fausse information.
Voilà, ce n'est pas juste.
J'avais noté ça en me disant, ah, je vais lui poser la question.
Donc, quand la mairie de Tours nous avait sollicité, alors je ne sais plus qui, je crois que c'est Bruno Marmiroli, je ne sais plus. On a fait une... Alors, l'objectif, c'était... donner la citoyenneté d'honneur à la Loire pour la ville de Tours. Et je trouvais que ça rejoignait bien l'histoire du Parlement de Loire. Et puis, on avait convenu qu'on allait expliquer un petit peu c'est quoi la Loire, comment ça fonctionne, les pressions qu'elle subit, etc. Donc pour la partie écologique, on va dire animaux, végétaux, voilà, j'étais intervenue.
D'accord. Voilà. Et alors, j'avais une question un peu différente. Toutes les brochures touristiques parlent à propos de la Loire, de l'un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Ça vous fait quoi ? Ça vous énerve ? Ça vous...
Alors, ça, un fleuve sauvage en Europe, il n'y en a plus. Hein, ça n'existe plus parce que on les a aménagés énormément, mais depuis très 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 longtemps. Hein, les Romains, ils avaient déjà fait, les Gaulois, ils avaient déjà fait. Enfin bon, voilà. Alors, ce que je peux... Bon, on peut comprendre, c'est un argument touristique qui est développé. Et je peux le comprendre d'une certaine manière et quelque part... Je l'ai vraiment bien compris au travers bon, de différents fleuves que j'ai vus à droite, à gauche, en Europe ou éventuellement ailleurs, et aussi au travers de regards d'amis allemands. Lui, il travaille sur la réintroduction du saumon dans le Rhin, qui, lorsqu'ils viennent ici, une fois par an, me disent « Catherine, c'est fabuleux ici, vous avez la nature et la culture qui sont au même endroit ». Il me dit « Je vais au bord de la Loire, j'ai un cours d'eau qui n'est pas très domestiqué, aménagé, etc. Et en face, j'ai le château d'Amboise, j'ai… enfin voilà. » Donc tous les ans, ils me disent « Mais c'est merveilleux, c'est beau, etc. » Donc tous les ans, on va se faire une balade au bord ou sur l'eau et on visite quelque chose. Parce que ben, voilà, on se fait plaisir comme ça, les uns et les autres. Et c'est vrai que ben, si je compare à la Seine ou au Rhin ou au Rhône, ben, la Loire, elle a été moins, entre guillemets, aménagée, canal à grand gabarit, etc., que ces cours d'eau-là. Elle a gardé une certaine dynamique hydrologique et dynamique sédimentaire qu'on ne retrouvera pas forcément facilement sur d'autres cours d'eau, quoi. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui est un petit peu aussi derrière le dernier fleuve sauvage, même si c'est pas vrai, quoi. Hein. Ça aussi, ça a été des séances de discussion avec des gens de tas de disciplines diverses et variées pour nous dire que non, non. Voilà, quoi.
C'est une question de paysage, de rapport au paysage.
Bah, pour certains, oui. Pour d'autres, ça va être le rapport au paysage, mais aussi les modalités. Pour moi, c'est aussi les modalités de fonctionnement du cours d'eau. Hein. Si je prends le Rhône à certains endroits, c'est le canal à grand gabarit, quoi. Hein. Donc, ça ne fonctionne pas du tout pareil hein, en termes de hydrologie, en termes de sédiments, et du coup, en termes de faune et de flore que la Loire, quoi. Même si ce n'est pas le même genre de cours d'eau non plus. Hein. Je sais bien, ça n'a pas le même régime hydrologique, mais... Bah là, en ce moment, je suis en train de lire un livre d'un collègue de Strasbourg sur le Rhin. Bon, bah, ça donne envie d'aller voir certaines portions du Rhin que je ne connais pas. Il y a des portions que je n'ai jamais été voir. Lui, c'est un fan de poissons, donc il essaye d'expliquer la distribution des poissons dans tous les différents compartiments de la plaine alluviale du Rhin au travers d'un regard historique. Et il a des archives, il a eu accès à des archives du 17e d'un monsieur qui pêchait, mais en fait qui était un vrai scientifique, qui décortiquait les espèces dans le sens où ça c'est telle espèce parce que si, ça, on la reconnaît à ça, enfin bon... C'est fabuleux, cette archive. Et du coup, bon, là, je commence le bouquin. Hein, donc là, il est plus sur la partie avant les aménagements. Je n'ai pas encore attaqué, même si je sais quand même comment ça s'est passé. Mais c'est fabuleux, quoi. Hein, et il explique tous les différents compartiments qu'il y avait dans cette plaine alluviale qui est immense, entre la forêt noire et puis les Vosges. C'est fabuleux aussi. Et on se dit, oui, mais maintenant, on en a fait quoi, un truc rétréci comme ça? Enfin, bon, c'est complètement fou, quoi. Donc, ben, il y a... Les années 90 nous ont appris comment, tous les chercheurs de cette période-là, ils nous ont appris comment fonctionnaient les cours d'eau, avec beaucoup de travaux, ben, justement, sur le Rhône, aux US aussi. Bon, maintenant, on sait, donc... On peut quand même faire des restaurations, des aménagements ou des déménagements, selon certains, de manière à respecter ces modalités de fonctionnement. Et c'est quand même... faut s'appuyer quoi, sur cette expérience-là. C'est pareil, dans son bouquin, il cite un scientifique qui, au moment de la correction du Rhin, là où on a transformé en un chenal unique, etc., il y avait un scientifique qui disait... que ce serait une catastrophe, alors qu'on ne connaissait pas l'écologie des cours d'eau de la même manière, quoi, et qu'on allait y perdre en productivité, en bois, en poisson, que ça allait réduire l'économie locale, enfin, c'est incroyable, quoi, et on n'a pas, et il explique bien, le monsieur, il n'a pas du tout été écouté, quoi. Bon, après, c'est peut-être compliqué, le Rhin, un fleuve transfrontalier, bon, mais c'est, voilà, ça donne envie d'aller voir d'autres... d'autres façons de faire aussi, d'autres gestions. Bon, j'avoue aussi que pendant mes vacances, je suis beaucoup allée voir des cours d'eau. Ce que mes enfants m'ont reproché. Mais bon,
c'est bien,
une année, on m'a dit... Oh. Alors avec mon ami là, qui est biologiste moléculaire... Oh là là, franchement, vous, vos églises romanes et vos cours d'eau, on en a marre. Bon, d'accord, on va tâcher de faire autre chose.
Je compatis. Voilà. Il y a quelqu'un dont vous n'avez pas parlé, c'est votre directeur de thèse, Jean-Claude Lefeuvre.
Oui. Alors, Jean-Claude Lefeuvre, c'était mon directeur de thèse. Ben, il était aussi au Muséum à Paris. Il était aussi professeur à l'Université de Rennes. C'est quelqu'un que j'avais eu en cours, qui était fabuleux. Et mon mari l'avait eu en cours en Doug. Il me disait, mais c'est le genre de prof, on reste scotché devant. Il explique très bien. Enfin, voilà. Et alors, en fait, je n'ai pas eu forcément beaucoup de relations avec lui, parce que... mon directeur, j'ai envie de dire, au quotidien, c'était Jean-Luc Baglinière, de l'INRA à l'époque, de Rennes. Et donc le professeur Lefeuvre, je le voyais à peine une fois par an, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est, avec Jean-Luc, c'était vraiment... c'est ça aussi que j'avais beaucoup apprécié, c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à l'IRBI après, c'est qu'on avait une très grande autonomie. Comme on avait construit le dossier de recherche de financement de thèse ensemble, c'est sûr, la partie administrative, c'était lui qui la faisait, qui disait bon, faut commander ça, faut acheter ci, hein. Mais c'était nous en fait qui gérions ensemble. Donc on lui disait ben Jean-Luc, voilà, j'ai besoin de ça ou si ça. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose, un travail. Enfin. Peut-être pas un travail de groupe, mais il y avait vraiment une grande confiance de sa part, quoi. Il nous laissait une très grande autonomie. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'après, à l'IRBI, c'était un peu plus dur, parce que je ne retrouvais plus forcément cette autonomie que j'avais eue pendant la thèse. Mais sinon, il a toujours été très à l'écoute. Globalement, de bons conseils. Je crois que je me rappellerai toujours la fois où je suis allée le voir. Alors, on n'avait pas encore on avait accès aux ordinateurs quand même, mais c'était le début. Et j'ai dû arriver avec un paquet de papier comme ça, en lui disant, ben, tu peux relire la thèse. Il a pris le paquet, il m'a fait, ah non, tu reviendras quand il fera moitié moins gros. Pouf.
Enfin, d'accord.
Et je me suis dit, bon, ben d'accord. Et puis, ben voilà, c'était pour m'obliger à synthétiser. Et finalement, c'était un très bon exercice, quoi. Mais on pouvait vraiment échanger, quoi. Il y a des choses, on a vraiment construit ensemble, quoi. Quand j'y arrivais pas, j'allais le voir, je lui disais, ben qu'est-ce que t'en penses, etc. Et ça, on a passé des heures sur les écailles d'Alose ensemble, puisque moi, j'ai été chargée de mettre au point une méthode de détermination de l'âge à partir des écailles, et que ces poissons-là, c'est nettement moins facile que sur du saumon ou sur d'autres bestioles. Bon, ben, on a passé des heures ensemble, quoi. Et j'ai envie de dire, il n'y avait pas le directeur et l'étudiante, quoi. C'était deux personnes qui bossaient ensemble, quoi. Et pareil avec une technicienne du labo. On était deux ou on était trois, mais on se fichait pas mal du statut, quoi. C'était... deux personnes qui cherchaient à comprendre, point. Ouais. voilà. Non, j'ai beaucoup aimé. Ben Jean-Luc, on a gardé des relations, bon, pas toujours régulières, mais voilà. Encore, quoi. Lui aussi, il a du mal à quitter. Même si ça fait longtemps qu'il est à la retraite. Il a...
En actif.
Voilà. Puis quelque part, il était peut-être plus sur des choses peut-être plus théoriques. Et le fait de passer sur les aloses, ben, il a découvert un autre des espèces avec un autre type de cycle de vie. Donc ça a aussi ouvert son champ. Et puis bah, il y a eu un autre chercheur qui avait travaillé sur les aloses, mais au Maroc, qui est venu rejoindre l'équipe. Donc c'est vrai que ça a fait... une dynamique. Et puis oui, c'était des bons moments. Et c'est quelqu'un, bah, justement, au moment où je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je continue à l'IRBI, je continue pas, etc. Je suis retournée le voir. Je lui ai dit, ben voilà. Voilà la situation, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et là, il a été vraiment de très bons conseils, quoi. Il m'a aidé, il m'a soutenu, et c'était vraiment agréable, quoi. Il y a quelques années, il est revenu me chercher en disant, bon, on on m'a demandé de faire un atelier de lecture des âges, des allos. Alors, faudrait bien que ce soit toi qui l'anime. Bon, d'accord, allez, on va le faire.
On va le faire ensemble.
On a fait ensemble.
Voilà. Merci. On en vient un peu au bout de cet entretien, mais j'avais encore deux questions. Est-ce qu'il y a un souvenir vraiment marquant dans votre activité de chercheuse dont vous n'auriez pas parlé et que vous souhaiteriez évoquer ou quelque chose qui a vraiment été décisif pour vous?
Alors, il y a peut-être une chose, c'est le programme LIFE, Grande Mulette, que M. Van Sen portait. Et il a dû s'absenter pendant un an pour des raisons de santé. Et l'université m'avait demandé de le remplacer. Donc, je l'ai remplacé pendant un an. Donc, toutes les installations étaient à Chinon. Et là aussi, ça a été très, pas facile, mais très enrichissant, tant sur le point de vue scientifique, parce que, si je peux me permettre, il avait un doctorant qui faisait un petit peu ce qu'il avait envie, qui ne remplissait pas les cahiers de labo, par exemple, donc, ou qui remplissait le sien, mais le collectif, il ne le remplissait pas. Donc là, c'était pas... Voilà, ça n'a pas toujours été facile. Et puis parce que on ne lui disait rien avant, puis que quand je suis arrivée, les règles n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc bon, voilà. Ça aussi, c'était une belle expérience, parce que c'était aussi... on a travaillé avec plein de partenaires, divers et variés. Il a fallu vraiment... monter des choses complètement. Et là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était, pareil, on ne s'occupe pas de savoir s'il est prof ou pas prof, le collègue ou la collègue, on est là pour faire un projet et le faire ensemble, quoi. Donc on utilise les compétences de tout le monde pour avancer, et puis voilà, quoi. Mais on n'a pas d'ordre à donner parce que, soi-disant, on est un subalterne ou je ne sais pas quoi. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc c'était vraiment un temps fort aussi, ce projet. Bon, dommage que malheureusement, il n'ait pas pu aller jusqu'au bout. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est indépendant de notre volonté et de celle de l'université. Donc voilà, sinon... après, il y a eu des très bons moments avec les étudiants... qui peuvent avoir des fois été collectifs parce que y a eu au moment d'un atelier où on a fait des choses vraiment sympas ensemble, ou plus individuelles, ainsi quand même. On a eu une année, alors c'était en 2018 qu'elle a dû arriver. Le Covid, c'était 2020. Donc M1, 4. Non, alors, oui, elle est arrivée en 2018, mais elle est arrivée en troisième année à Polytech en 2019, une jeune étudiante ouïghour. Et puis, la troisième année, j'avais des cours avec les étudiants, mais on ne développe pas les mêmes relations que quand ils choisissent leurs options en quatrième année, où là, nous, on se retrouve avec des petits groupes, donc on peut plus facilement... échanger, discuter, aller plus loin dans les discussions avec les étudiants. Et puis, Covid, et il fallait qu'il trouve un stage, alors c'était la galère. Et puis, son prénom, c'est Mourtabar. Elle vient me voir, puis elle me dit... Non, d'abord, c'est une autre qui vient me voir, et puis qui me dit... Mourtabar, elle voudrait faire un stage avec vous. Je dis, pourquoi pas, mais je dis d'abord, est-ce qu'elle a demandé dans un bureau d'études, avant, etc. Alors, je lui dis, tu lui dis qu'elle vient de me voir. Et puis elle est venue me voir, donc on a discuté, je lui ai dit « mais est-ce que tu as demandé dans des bureaux d'études ?» Elle m'a dit « oui, mais j'arrive pas à trouver ». Bon, alors on avait prévu des plans B, évidemment, parce que c'était quand même très compliqué. Alors je lui ai dit « sur quoi tu voudrais travailler ?» Elle me dit « qualité de l'eau ». Je dis « avec moi, c'est pas mon sujet, donc je pourrais pas te proposer quelque chose sur qualité de l'eau ». Je dis « je peux te proposer ma collègue Nathalie Gassama de Géol ». Elle me dit « non, ils ont déjà proposé un stage et j'ai pas été retenue ». Ah. D'accord, bon. Et puis finalement, je l'ai fait travailler sur l'évolution thermique. Alors, de quatre, la branche Loire, la branche Allier, la Vienne et c'était quoi le quatrième? Loire, Allier, Vienne. Non, c'est tout, ces trois-là. À partir de bases de données plus ou moins complètes qu'on avait, donc elle avait un gros travail de reconstruction de bases de données à partir de températures, soit qui pouvaient venir de données de l'Adréal, soit de ce compte d'enregistrement à différents endroits par différentes personnes. Et donc elle a eu un gros travail, d'abord méthodo en fait, là-dessus. Et on a bien échangé, bien discuté pendant le stage. Et puis, à la fin, alors j'osais pas trop poser de questions sur sa famille, parce que c'est la période où on parlait beaucoup des Ouïghours et des camps de concentration et tout ça. Je savais pas trop comment faire, quoi. Puis quand même, à un moment, je me suis dit, non, faut quand même que je lui pose la question. Donc je lui ai posé la question, plutôt sur la fin du stage, parce que je me disais, faut pas non plus que je la perturbe. Enfin bon, hein. Alors, plutôt sur la fin du stage. Et puis, elle a vidé son sac, quoi. Elle avait besoin de parler, etc. C'est devenu une amie. Voilà.
Une belle histoire.
Oui, oui, oui.
Et pour conclure, quand même avec les poissons qui vous ont accompagné toute votre vie, comment vous envisagez aujourd'hui l'avenir des espèces aquatiques que vous avez étudiées, et des aloses en particulier, puisque vous les avez suivies depuis très très longtemps?
Pas, je veux dire, pas de ma perspective très favorable, malheureusement. En grande partie à cause du réchauffement climatique et puis de la... Enfin, s'entend température de l'eau et hydrologie. Hein. Pour moi, c'est les deux qui vont ensemble. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui modélisent un peu la circulation de ces bébêtes-là dans le cours d'eau. Il y a une collègue de l'INRAE qui l'a fait dans la Seine. Il faudrait que je revoie avec elle. Elle a un doctorant là-dessus. J'avais dit, s'il y a besoin pour la Loire, si tu veux... Bon. Je pense qu'il a largement assez à faire sur ce bassin-là. Mais c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est les conditions d'accès aux zones de reproduction. Ensuite, sur les zones de reproduction, il y a quelque chose qui est relativement récent, c'est la perturbation par les silures, soit qui dérange les poissons au moment de la reproduction, soit qui les mange. Et puis... Le troisième point que j'aimerais aussi qu'on étudie, c'est l'impact de l'augmentation de température sur les larves d'alose, parce que l'INRAE de Bordeaux a travaillé sur la réintroduction de l'alose dans le bassin du Rhin et a fait tout un tas d'expériences sur les seuils thermiques pour les œufs, les juvéniles, enfin les larves et les juvéniles. Et ils ont montré qu'à partir de 25 degrés, ça commençait à pu être très très bien, qu'on avait déjà des mortalités chez les larves. Et puis 28 degrés, c'était seuil de létal. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une modélisation de tout ça pour essayer de voir déjà est-ce que ça va, certaines années, impacter ou pas les populations. Et peut-être que c'est aussi une des raisons, une des pressions supplémentaires qui s'ajoutent et qui fait que les populations, elles sont en train de s'effondrer, quoi. Bon, après, il y a, on l'a montré avec les collègues du muséum, une pression de prédation du silure. Alors, on l'a montré sur la lamproie. Il y a un programme qui va démarrer, normalement, en 2025 sur les aloses. Donc, ils m'ont demandé de faire partie du conseil scientifique. Un peu sur la Vienne et un peu sur la Loire, y a une pression de prédation qui s'exerce sur ces poissons-là quand ils remontent. Donc, point d'interrogation, quoi. On est capable de lister les pressions, mais c'est la grosse difficulté qu'on a, hein, c'est qu'on n'est pas capable de quantifier, parce que ça demande des moyens financiers et du temps, beaucoup, que... En l'occurrence, l'État n'est pas en capacité de fournir ou n'a pas la volonté de fournir. Ça peut être les deux situations. Mais c'est vrai que tant qu'on reste avec des présupposés, c'est pas évident, quoi. Et que la solution qui est d'interdire la pêche, pour moi, c'est pas une solution. Que on s'occupe des prises plus ou moins douteuses qui sont faites en mer, Je pense que oui, il faudra essayer d'arriver à quantifier ça et voir qu'est-ce que ça représente par rapport à ce qui va rentrer dans l'estuaire. Donc il y a une quantification qui est prévue dans le programme sur les alloses, il y en a une de fait dans le programme sur les lamproies. Mais ce n'est pas parce qu'on va interdire la pêche qu'on va résoudre les problèmes d'augmentation de température de l'eau et de circulation des poissons, quoi. Donc ça, il faut s'en occuper. Et ce n'est pas simple, et c'est pour ça que mon mari, qui est au comité de bassin, est en train de batailler très dur pour que le niveau du seuil de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux soit abaissé pour que les poissons puissent franchir plus facilement. Parce que maintenant, il y a moins besoin qu'il soit aussi haut que quand il a été construit. Parce que quand il a été construit, il fallait 60 mètres cubes par seconde pour refroidir les réacteurs. Et maintenant, il faut 6 mètres cubes par seconde. Donc, c'est pas pareil. Parce qu'avec les tours de réfrigération, là, ça permet de récupérer beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, ça commence à démarrer. Donc, il fait un travail fou là-dessus pour essayer d'avancer, quoi. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que ça veut dire remettre en cause un certain nombre de pratiques. Ça veut dire aussi des moyens financiers. Ouais. Bon, en ce moment, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident.
Moi, j'ai une petite question qui va un peu dans ce sens-là. Toi qui travailles sur ces problèmes écologiques depuis longtemps, et le fait de voir cette inaction politique, comment toi tu gardes le moral ou l'espoir, je sais pas comment le... Tu sais, ça rejoint les rapports du GIEC, ça rejoint tout ça.
Ouais, ouais. Je dirais, c'est pas facile. Il y a beaucoup de... Quelque part, il y a beaucoup de colère, parce qu'il y a des choses, on sait depuis très longtemps, et on aurait pu, si on avait vraiment voulu, je pense... aménager certains barrages. Il y a bien eu des exemples magnifiques de suppression de certains barrages, Maison Rouge sur la Vienne. Ça a été dur, hein, très dur, mais ça a été fait. Le barrage de Blois, les deux barrages sur la Cellule, la rivière à Saumon en Normandie, sur lequel il y a eu un gros, gros, gros projet de recherche interdisciplinaire de l'INRAE, de Paris. Enfin bon, c'est... J'ai envie de dire, quand on veut, on peut, quoi. Mais ça relève toujours quelque part d'un coup d'éclat. Enfin, pour moi, un petit peu d'un coup d'éclat politique, quoi, qui fait que on va faire une action, et puis voilà, ça va permettre de faire taire les autres, quoi. Il y a Poutès-Monistrol sur le Haut-Allier, où ils ont considérablement baissé le barrage, ils ont changé la modalité de gestion de l'ouvrage pour le saumon. C'est des millions d'euros qui ont été investis là-dedans. On peut peut-être faire quelque chose aussi pour abaisser le seuil de la centrale de Saint-Laurent, qui fait blocage, et si on arrive à le baisser et que on change aussi la configuration pour éviter qu'il y ait trop de silures derrière, parce qu'il y a entre, suivant les périodes, 200 et 300 silures à certains moments. Peut-être il faut que ces silures ils puissent être, ne pas se concentrer là pour exercer une pression de prédation ou d'affolement, de peur chez les poissons, quoi. Donc, il y a des choses à faire. Après, je crois que je suis une incorrigible optimiste sur certaines choses et que je me dis faut y croire, quoi. Tant pis. Même si des fois je sais pas où on va, hein, je me rends pas compte, j'arrive pas à voir, c'est triste, mais je me dis quand même, avec le recul, il y a quand même eu pas mal de choses de faites. Si je reprends quand j'étais étudiante, quand j'ai travaillé sur les petits cours d'eau en Bretagne où il y a les gardes-pêche, certains, ils étaient complètement désespérés de certaines choses. Et puis quand je vois maintenant, sur un, le Légué, dans les Côtes d'Armor, pareil, on a enlevé un barrage et puis plein de poissons, plein de saumons qui sont revenus. Je me dis, j'en ai pas reparlé avec ce monsieur la dernière fois qu'on s'est vu, ça commence à faire un moment, mais je me dis, quand même, il y a des choses, on peut faire, quoi. Donc, voilà. Après, c'est peut-être les circonstances politiques et économiques qui font que, on ne va pas forcément y mettre les moyens, quoi. Bon, en même temps, je me dis peut-être que si vraiment les gens ils se retrouvent coincés avec le changement climatique, ils vont peut-être raisonner autrement. C'est peut-être une petite lueur d'espoir que j'ai, quoi. Des fois, c'est triste, hein, mais je me dis, pas d'eau au robinet pendant 15 jours, tout le monde verrait ce que ça donne, peut-être que le consommateur, il agirait autrement, déjà peut-être à son niveau perso, et puis à des échelles régionales ou de bassin, pour dire les prélèvements, on fait attention, quoi. Bon, voilà, c'est peut-être paradoxal, hein, mais voilà. Sinon, bah, ça serait un peu triste. Voilà, puis je me dis, bah, dans les étudiants conformes, il y en a qui, bah, qui vont prendre la suite, qui vont aider aussi à ça, qui... Il y en a qui y croient vraiment, qui ont vraiment envie de changer des choses, donc je me dis, bah, faut compter sur eux, quoi. Faut les booster quand on les sent comme ça, et puis il faut compter sur eux, quoi. Faut... Ouais, en général, je les boostais.
C'est la prise de conscience qui évolue quand même dans le bon sens, quoi.
Oui, je pense. Même si des fois, ça fait un peu... C'était pas facile à gérer, parce qu'il y en a, ça leur fichait le moral par terre, puis fallait les récupérer, quoi. C'était pas évident. Pour revenir sur ta question de tout à l'heure, un petit peu aussi adepte du small is beautiful. C'est que je me dis que si chacun fait un petit peu, on est des millions et même plus, ben, ça va finir par se voir à un moment ou à un autre, quoi. Donc, voilà. Après, ça suffit pas. Je suis bien consciente. Mais, voilà, je me dis, si chacun fait attention à comment il utilise l'énergie, ici, si, ça... par million, ça va finir par se voir, quoi.
Et si chacun fait attention à son échelle individuelle, ça force aussi les politiques à prendre conscience et à pouvoir agir. Parce que malgré tout, les politiques, c'est aussi des individus au départ. Donc peut-être que ça débouchera sur quelque chose de collectif après.
Oui, et puis si ça permet de booster ou des associations qui vont aussi dans ce sens-là, c'est sûr qu'à force, ça va faire des pressions sur nos politiques, ouais. C'est clair, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça qui me fait tenir, hein. C'est parce que je me dis que si on fait tous un petit peu quelque chose, bon, ben voilà, ça... Ne serait-ce que bon, être très vigilant par rapport à sa consommation électrique, quand tu le vois sur ta facture, t'es content. Bon, ben alors, dis-toi bien que répercuter, ça fait peut-être une tranche de centrale nucléaire en moins, ou un barrage à tel endroit en moins, ou... Ouais. Voilà, quoi. Donc, voilà. Bon, c'est peut-être complètement illusoire, mais bon.
On va finir sur une note d'optimisme. Merci beaucoup. C'était très intéressant.
Merci.